chers amis. Lisons dans le livre des Actes, chapitre 16. Et il arriva à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive croyante, mais d'un père grec, lequel avait un bon témoignage des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Paul voulut que celui-ci allât avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous y savaient que son père était grec. Et comme il passait par les villes, ils remirent pour les garder les ordonnances établies par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Les assemblées donc étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Et traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, étant venus jusqu'à Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Mais ayant passé par la Mysie, ils descendirent dans la Troade, et Paul vit de nuit une vision. Un homme macédonien se tenait là, le priant et disant, « Passe à Macédoine et aide-nous. » Et quand il vit la vision, aussitôt nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser. Quittant donc la Troade, nous fîmes voile, tirant droit sur Samothrace, et le lendemain à Néapolis, et de là à Philippe, qui est la première ville du quartier de la Macédoine. Et une colonie, et nous séjournâmes quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la porte, et nous nous rendîmes au bord du fleuve, où l'on avait coutume de faire la prière. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui étaient assemblées. Et une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui servait Dieu, écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Et après qu'elle eut été baptisée, ainsi que sa maison, elle nous pria, disant, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y contraignit. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en prophétisant, procurait à ses maîtres un grand gain, vint au-devant de nous, et marchant après Paul et nous, elle criait, disant, « Ces hommes sont des esclaves du Dieu Très-Haut, qui vous annonce la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, affligé, se retourna et dit à l'Esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et à l'heure même, il sortit. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur gain s'en était allée, ayant saisi Paul et Silas, les traînèrent dans la place publique devant les magistrats. Et les ayant présentés au prêteur, ils dirent, « Ces hommes-ci, qui sont juifs, mettent tout en trouble dans notre ville et annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. » Et la foule se souleva ensemble contre eux. Les prêteurs, leur ayant fait arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les fouetter. Et leur ayant fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et fixa sûrement leurs pieds dans le bois. Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et incontinent, toutes leurs portes s'ouvrirent, et les liens de tous furent détachés. Et les geôliers s'étaient éveillés, et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria à haute voix, disant, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Ayant demandé de la lumière, le geôlier s'élança dans la prison, et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Et les ayant menés dehors, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit en cette même heure de la nuit, et lava leurs plaies. Et sur le champ il fut baptisé, lui et tous les siens. Et il les fit monter dans sa maison, et fit dresser une table, et croyant en Dieu, il se réjouit avec toute sa maison. Et les jours étant venus, les prêteurs envoyèrent le lecteur, disant, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier rapporta ces paroles à Paul, disant, « Les prêteurs ont envoyé afin que vous soyez relâchés. Sortez donc maintenant et allez-vous-en en paix. » Mais Paul leur dit, « Après nous avoir fait battre publiquement, sans que nous fussions condamnés, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettent dehors en secret? Non, certes, mais qu'ils viennent eux-mêmes et qu'ils nous mènent dehors. » Et les lecteurs apportèrent ces paroles au prêteur, et ils eurent peur, ayant appris qu'ils étaient Romains, et ils vinrent et les prirent et se rendent à leurs vœux, et les ayant menés dehors, leur demandèrent de sortir de la ville. Étant sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et ayant vu les frères, ils les exhortèrent et partirent jusqu'ici. Nous venons de chanter, chers amis, que ce Dieu tutélaire, il voit tous nos besoins. Il y en a des besoins ici ce soir. Chacun, chacune de nous. Il y avait des besoins ici aussi dans ce chapitre. Sur tous les niveaux. Il y a un jeune homme, Timothée. Il y a une jeune fille possédée d'un démon. Il y a une femme respectable. Il y a un geôlier cruel, dur. Chacun, chacune, avec ses besoins. Et vous et moi, nous avons des besoins. Que c'est merveilleux qu'il y a un Dieu qui sait. Il y a un Dieu qui nous regarde ce soir. Il y a un Dieu qui peut donc transformer une vie. Une vie misérable comme cette fille possédée. Une vie de cruauté, de manque d'amour pour ce prochain d'un geôlier. Une vie d'une dame très respectueuse qui même croyait à Dieu. Et un jeune homme élevé dans un foyer chrétien, aux croyants. Tous ceux quatre, ils avaient besoin de la puissance de Dieu qui transforme leur vie pour les rendre utiles pour Dieu. Au lieu de vivre pour soi-même, de vivre pour Dieu. En d'autres termes, pour être disponible. Voilà ce que je voulais méditer avec vous, être disponible. Sommes-nous disponibles? Sommes-nous engagés pour le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Je parle à mes jeunes amis ici ce soir. Peut-être la majorité d'entre vous, vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Mais alors, ici, il dit que ce Timothée, il n'est pas appelé croyant. Il est appelé quoi dans le verset premier? Il y avait là un disciple. Ah, c'est déjà autre chose que d'être un croyant. Un disciple, c'est quelqu'un qui a compris qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien. Qui a compris que il ne peut pas suivre son propre chemin maintenant. Mais il doit suivre le Seigneur Jésus. Être un disciple, c'est de se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est de dire, Seigneur, je suis prêt pour toi. Je suis disponible, Seigneur. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Est-ce que nous sommes déjà arrivés dans notre expérience spirituelle, nos jeunes et nos moins jeunes, de vouloir vivre pour Christ, d'être disponible? Voyons donc ce jeune homme Timothée, transformé, et quel témoignage on l'a apporté, il avait un bon témoignage de ses frères et sœurs, une vie utile. Combien d'entre nous, chers amis, jeunes et moins jeunes, est-ce que l'Esprit de Dieu peut rendre un bon témoignage de nous, que nous sommes utiles aux autres, que nous sommes en bénédiction aux autres, ou est-ce que même comme des croyants, nous vivons encore égoïstement pour nous-mêmes? C'est une question qui se pose. Et voilà un Paul et un Silas disponibles. Aussi la grâce, la puissance de Dieu a transformé leur vie. Ils sont prêts à souffrir n'importe quoi. Ils sont prêts à accepter n'importe quelle circonstance. Même d'être jetés en prison, d'être fouettés, frappés. Ils ont tout accepté. Pourquoi? Par amour pour le Seigneur Jésus et par amour pour les âmes. Oh, ils ne sont pas restés confortablement dans leur grande maison. Ils étaient prêts à tout abandonner pour le Seigneur Jésus et pour l'amour des âmes disponibles. Est-ce que nous sommes disponibles? Il y a cette femme, Lydie, prospère. Elle était marchande de pourpre. Venant de Théatyre, elle craignait Dieu. Et voilà, le jour arrivé que elle a aussi réalisé qu'elle manquait quelque chose. Est-ce qu'il y en a ceux d'entre nous ici ce soir qui ressentent dans la profondeur de leur cœur qu'il en manque quelque chose dans leur vie? Même étant élevé dans les foyers chrétiens ou pas chrétiens, il vous manque quelque chose, cher ami. Et peut-être, oui, des chrétiens depuis des longues années, mais il nous manque quelque chose. La puissance de vivre pour Christ. L'amour des cœurs qui brûlent pour le Seigneur Jésus. Les cœurs disponibles d'accepter n'importe quoi pour qu'on puisse être en bénédiction aux autres. Et alors cette femme, donc transformée sa vie, elle a rendu sa maison aux serviteurs du Seigneur. Quel beau service, que l'hospitalité, que de recevoir les serviteurs du Seigneur, que d'encourager les autres. Elle a dit, c'est pas ma maison. Maintenant, j'ai réalisé que ma maison, c'est au Seigneur. Et puis encore le geôlier, transformé. Et alors, il a regardé Paul et Silas comme des criminels. Et maintenant, il les voit d'un tout autre sens. Il les voit comme des serviteurs de Dieu vivant. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu peut changer nos préjugés et qu'il peut rendre un loup dans un brebis. Il peut rendre un homme, une femme critique dans une personne avec un esprit doux et aimable. Cette puissance peut transformer les vies, nos vies. Voilà quelques besoins qui se présentent dans notre chapitre. Donc, être disponible. Peut-être une autre expression, c'est le privilège de pouvoir collaborer avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est possible? pour un être humain comme vous et moi que nous pouvons être des collaborateurs ou des instruments pour l'Esprit de Dieu, ce chapitre nous montre. Donc, nous avons l'appel d'un Timothée dans les 5 premiers versets. Et depuis le verset 6 à 10, il y a un appel tout à fait spécial pour qu'ils se rendent, Paul et Silas et Timothée, ils se rendent pour évangéliser. Et depuis le verset 11 jusqu'au verset 40, ils ont donc évangélisé en Europe. J'aimerais dire quelque chose sur les 5 premiers versets. Il y avait donc à Lystre ce jeune homme. Sa maman était un juif et sa grand-mère aussi, mais son père était grec. Qu'est-ce qui se passait donc dans le passé avec cette mère qui a permis que sa fille soit mariée avec un grec? C'est un faux pas. Ce n'était pas permis qu'un juif se marie avec un grec. Mais nous voyons la grâce de Dieu qui, même à travers nos échecs, peut en faire sortir des bénédictions. Quelle grâce! Nous avons un Dieu plein de grâce. Ah, nous avons suivi peut-être dans le passé notre propre chemin et nous sommes arrivés peut-être dans une situation impossible. Sans espoir? Non, mes chers amis. Il y a l'espoir. Il y a toujours espoir. Espoir dans un Dieu plein de miséricorde qui peut nous aider. Et nous voyons dans ce foyer donc qu'en dépit des circonstances de mariage qui étaient contre la loi des Juifs, loi de l'Ancien Testament pour un Juif, que la grâce a triomphé dans ce foyer. Et ce jeune Timothée a été élevé dans la crainte de Dieu. Et pas seulement cela. Encore la grâce a surabondé qu'il a eu le privilège d'être un serviteur du Dieu vivant à côté du plus grand missionnaire de jamais, l'apôtre Paul. Quel privilège! Ce privilège n'est pas donné à chacun d'être à côté d'un grand missionnaire comme l'apôtre Paul, mais ce n'est pas nécessaire. On peut être fidèle là où on est. Et si Timothée n'a pas tout de suite commencé après sa conversion de vite aller outre-mer pour être missionnaire. Non. Il y avait une formation. Il y avait donc une formation nécessaire dans sa vie. Il n'a pas pensé aux grandes choses. Il a simplement pensé être utile là où il se trouvait, dans son assemblée. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Essuyer les bancs de la poussière, préparer pour ses frères, dans notre ambiance, peut-être chauffer la salle de la réunion, mettre les cantiques dans leur place, recevoir les visites dans l'assemblée, vous êtes bienvenus. Des petites choses, des petits services. Je connais en Angleterre un endroit où à l'entrée, c'est dans une église baptiste, je vous dis franchement, j'ai entendu ça. Alors, le dimanche matin, c'est dans la ville de Cambridge, où se trouvent des dizaines de milliers d'étudiants de tous les pays dans le monde, qui sont peu perdus, qui n'ont rien, leurs parents sont loin, ils sont isolés. Alors, dans cette église, quand ils arrivent, il y a deux frères qui sont là à la porte, qui disent, vous êtes les bienvenus, et ils vous donnent une carte. Et sur cette carte, c'est écrit, vos parents adoptifs sont monsieur et madame, et leur adresse, numéro de téléphone. Vous êtes dès maintenant toujours bienvenus, et invité au repas du dimanche, et toute la journée, vous êtes invité chez vos parents adoptifs. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Que de trouver un tel amour quand on est étranger. Moi, j'étais aussi un étudiant. Je vous assure que ce n'est pas toujours comme ça qu'on a été reçu. Il y a parfois ici et là des assemblées où vous vous tenez devant la porte et personne vous salue. Personne vous dit bienvenue. Est-ce que c'est possible? Voilà de petits services, mes chers frères et sœurs, que tout le monde peut rendre. Ce n'est pas nécessaire d'être un grand évangéliste, un grand docteur. Simplement rendre service, être utile, être disponible pour les autres. Quelle bénédiction. Et c'est ainsi peut-être que Timothée a commencé. Et tous les frères et sœurs ont rendu, ils sont rendus compte que ça, c'est un frère qui, c'est un jeune frère, mais c'est un frère qui vit tout près du Seigneur. C'est un frère qui porte un fardeau pour les autres. Et ça se voit. Que le Seigneur augmente de parmi nous aussi les tels soucis les uns pour les autres. Et ainsi, donc, l'Esprit de Dieu a dirigé l'apôtre Paul, qui a discerné, voilà, les qualités pour un vrai serviteur, c'est d'être disponible pour n'importe quoi comme service. Le plus humble service, voilà, c'est le vrai serviteur. C'est un tel jeune homme qui n'est pas critiqué, pas détruit, les autres, mais qui a été utile, et que c'est l'apôtre Paul qui voulut que celui-ci alla avec lui et l'ayant pris, il le circoncit. Ah, voilà un compromis de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? On dit tout de suite, compromis. Est-ce que ce n'était pas lui qui prêchait toujours contre les traditions juives et les circoncisions, etc.? Non, ce n'est pas un compromis du tout. Ce n'est pas un compromis parce que ici, ce n'était pas une circoncision pour être sauvé. Alors ça aura été un compromis. C'est pas la vérité. Non, c'était ici s'adapter à une situation qui a demandé. Ou dans d'autres termes, en 1 Corinthiens 9, et le verset 20 explique tout à fait pourquoi l'apôtre Paul a pu faire ça avec un Timothée. 1 Corinthiens 9, verset 20, et pour les Juifs, je suis devenu comme Juif, afin de gagner les Juifs. Pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi, quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faibles, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toutes choses pour tous, afin que, de toute manière, j'en sauve quelques-uns. Quel esprit de disponibilité! Ce n'est pas un esprit de compromis. Mais parfois, dans le service du Seigneur Jésus, non, ce n'est pas parfois. Il me semble que ça doit être une habitude, c'est de ne pas insister sur ses propres droits. Et voilà, pour le service, Timothée a été circoncis et son service était donc beaucoup parmi les Juifs. Et pour ne pas être une offense aux autres, il a accepté cela. Combien nous sommes prêts à accepter des choses afin que nous ne soyons pas une offense? Combien c'est donc important de s'adapter, de savoir s'adapter dans le service du Seigneur Jésus. Et voilà, ainsi, nous voyons dans le verset 6, il traverse la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêché par le Saint-Esprit, et pas seulement une seule fois, mais encore dans le verset 7, et mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, ils n'ont pas discerné la volonté du Seigneur. Pourquoi l'Esprit n'a pas permis? Même un apôtre doit apprendre de toujours vivre dans la dépendance du Seigneur, de toujours prier pour la direction, et combien plus nous, parce qu'il y a un arrière-plan. Et cet arrière-plan se trouve dans le chapitre précédent, chapitre 15, depuis le verset 36. Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant, visitez les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole. » Mais vous dites, « Mais c'est tout à fait admirable comme désir. » Mais il n'y a rien de plus beau que d'encourager les frères. Mais qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons dans le chapitre 16, c'est lui qui écrit, dans le verset 10, « Et quand il eut vu la vision, aussitôt, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à quoi? À évangéliser, pas à fortifier les frères en premier lieu. » Ça nous frappe. Mais c'est possible. C'est possible pour un enfant de Dieu d'avoir donc un désir qui semble tout à fait admirable et tout à fait juste, mais parce qu'il n'avait pas prié. Et alors, en comparaison avec le chapitre 13, là où on voyait donc des conditions, l'assemblée à Antioche rendait culte, servait Dieu, jeûnait. Voilà la prière. Et dans de telles circonstances, l'Esprit de Dieu avait dit, « Viens, séparez pour moi pour le service, Paul et Barnabas. » Mais nous ne voyons pas ici les prières. Et ce sont des frères qui ont remarqué cela aussi. Nous ne voyons pas une préparation dans la prière, il nous semble. Seulement un désir exprimé. Donc, retournons pour maintenant visiter les frères, pas toutes les villes où nous avons annoncé la parole. Une sorte de tour d'inspection. Alors, ça peut facilement devenir quelque chose d'automatique sans que ça soit réellement la direction de l'Esprit-Saint. On peut même faire le service pour le Seigneur Jésus automatiquement. Parce qu'on l'avait fait dans le passé, on peut le répéter. Et ça vient donc de répétition. Est-ce qu'il y a de telles choses dans nos vies, même dans notre vie chrétienne, dans l'Assemblée, qui devient automatique parce que nous avons manqué la communion avec le Seigneur Jésus dans cette chose? Et quel était donc le résultat? Le malheureux résultat. Et Barnabas, verset 37 du chapitre 15, « Et Barnabas se proposait de prendre avec eux Jean, aussi appelé Marc, mais Paul trouvait bon de ne pas prendre avec un homme qui avait abandonné dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Et il est donc entre eux de l'irritation en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas prenant Marc, fit voile pour Chypre. » Mais c'est différent avec l'apôtre Paul quand même. Mais Paul ayant fait soin pour lui de Silas partir après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Vous voyez la différence? L'autre a fait voile pour Chypre et Paul est recommandé par les frères. Il a recherché donc la communion avec ses frères et sœurs. Et je pense que c'est une chose capitale dans tout ce qu'on aime faire pour le Seigneur Jésus. Il y a parfois des esprits aussi parmi nous qui s'annoncent. Voilà, le Seigneur m'a appelé pour un tel ou tel service. Il l'annonce. Et puis, il demande donc qu'on est tout de suite d'accord avec ça. Oui, allez-y. Mais si parfois il y a une voix qui se lève, qui dit, mais, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Il dit, tant pis pour les frères, je m'en vais. Et ils font quand même, c'est un travail pour le Seigneur, certainement, mais ils le font quand même en dépit de cette petite réaction, une petite freine, peut-être un examen que le Seigneur permet, mais ils poussent leur propre volonté et ils agissent dans un esprit d'indépendance. Que c'est dommage. Que c'est dommage. Nous devons donc apprendre aussi comme l'apôtre Paul. Même un apôtre a donc accepté d'être recommandé par les frères et sœurs de l'Assemblée. Ah, ça, c'est pour nous apprendre aussi l'humilité dans le service du Seigneur et pour nous faire ressentir que nous avons besoin l'un de l'autre et qu'un esprit d'indépendance, c'est tout à fait mauvais, c'est tout à fait faux entre les membres dans le corps de Christ. Mais alors, voilà, peut-être c'était donc l'arrière-plan d'un tel départ qui a donc commencé pas tout à fait dans cet esprit de dépendance que c'était pour cela que l'Esprit de Dieu les a empêchés. Et deux fois. Et finalement, pour ainsi dire, quand l'apôtre Paul se trouvait dans le coin, qui se trouve de retour en Mysie, il n'a pas pu évangéliser Lila, mais il est revenu à Mysie et à Troade, il se trouve dans le coin, son dos dans le coin. Où est-ce qu'il faut maintenant se tourner? Mais alors, le verset 6 qui nous parle de Phrygie, vous savez que dans cette région, il y a au moins 62 villes. Quel grand besoin! Non, dit l'Esprit de Dieu. Non, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que plus tard, nous voyons que l'apôtre Paul a eu le privilège d'évangéliser Éphèse, se trouve dans cette région. Et le chapitre 19, verset 10, nous montre que plus tard, l'apôtre Paul a eu un ministère très béni. Voilà un principe qui nous est enseigné ici. Ce n'était pas maintenant le moment venu pour que l'Esprit utilise un serviteur dans un tel endroit. Et pour, même pour un enfant de Dieu, c'est souvent pas facile de discerner est-ce que c'est ma propre volonté ou est-ce que c'est la volonté du Seigneur. Combien nous avons donc besoin d'être dépendants sur le Seigneur, de se laisser diriger. Peut-être un jeune me demande, comment est-ce que je peux discerner la volonté du Seigneur? Moi, j'ai un problème. J'ai une décision à prendre. Comment est-ce qu'il faut agir maintenant? Alors, souvent, je donne un petit exemple. Par exemple, il y a un bateau sur la mer qui veut entrer dans le port. Et quand le bateau vient donc directement sur la côte, il voit trois phares. 1, 2, 3. Mais de venir directement, il y a des dangers. Il y a des rochers sous l'eau qui ne se voient pas. C'est dangereux. Non, il doit donc se tourner et devenir d'une telle manière afin qu'il voit ces trois phares communs, l'un derrière l'autre. Et une fois qu'il a donc en ligne un seul phare, il est dans la bonne direction. Ils sont en effet trois, mais ils sont unis. Le phare numéro un, la parole de Dieu. Ma lecture de chaque jour, dans la dépendance du Seigneur Jésus. La paix dans mon cœur, la paix de Dieu, n'est-ce pas, qui règne sur notre intérieur, la paix. Et puis les circonstances aussi. Ces trois choses, si s'unissent en un, si tous les trois parlent une seule chose, eh bien allez-y, dans la dépendance du Seigneur. Je l'ai pratiqué aussi souvent et j'ai toujours ajouté, Seigneur, si quand même j'ai eu tort, arrête-moi. Et d'être disponible aussi à se laisser arrêter. Notre Seigneur, ce n'est pas un despote qui est là prêt avec, pour nous fouetter chaque fois quand on a fait un petit faux pas. Il est plein de miséricorde. Et quand on fait un faux pas et on le confesse, il nous restaure. Quel bonheur. Voilà, l'apôtre Paul a donc appris. Il se trouve dans le coin. Et alors cette nuit, quand il a compris maintenant, et je dois me laisser agir par l'Esprit de Dieu, cette nuit, il a eu une vision. Encore une autre question qui se pose. Est-ce que le Seigneur nous donne encore des visions aujourd'hui pour nous montrer les chemins, comme l'apôtre Paul? Dieu est souverain. Je n'ai pas imposé au Seigneur de quelle manière il doit vous conduire ou une autre. Mais je pense en général, l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu pour nous diriger. Mais pourquoi donc ici? Mais c'est tout à fait un cas spécial. Vous rendez compte que depuis cette nuit, l'Esprit de Dieu a dirigé un apôtre pour entrer en Europe avec l'Évangile et cette occasion a été donc une transformation de l'histoire du monde entier. L'issue de cette vision, c'était donc capital. Et je pense, dans des circonstances extrêmement particulières, comme cela, le Seigneur donne aussi ce qu'il nous faut dans ces circonstances. Normalement, l'Esprit nous conduit par la parole, par la paix intérieure et par les circonstances. Et aussi, par le bon conseil de nos frères. Et c'est ainsi, donc, qu'ils ont eu l'assurance. Et remarquons que C'est l'écrivain Luc, n'est-ce pas, qui dit dans le verset 10, « Et quand il, l'apôtre Paul, eut vu la vision, aussitôt nous, c'est quand même une humilité frappante que Luc, un physicien, un docteur médecin, et d'autres hommes se sont donc soumis à un apôtre Paul qui a donc eu la direction et se sont joints à lui avec une harmonie parfaite, un amour, que c'est beau de voir les frères ainsi travailler et marcher ensemble. On a déjà souligné cela cet après-midi, que c'est beau d'accepter les uns les autres. Si la direction vient de par un frère, de pouvoir l'accepter que de par le Seigneur Jésus. Et j'aime ce petit mot aussitôt. Pas quand ça me convient, aussitôt. Je pense que le secret d'une vie heureuse, c'est d'être obéissant à la volonté du Seigneur aussitôt qu'on le réalise. Aussitôt. Est-ce que nous sommes prêts, donc? Voilà la disponibilité. Voilà l'esprit disponible. Prêt aussitôt. Mais pour cela, il faut un abandon total, chers amis. Pour cela, il faut vraiment reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie. On ne parle pas maintenant de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur, ça viendra encore plus tard. Mais on parle maintenant de ce qu'on a, on a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur. Mais est-ce qu'on a reconnu qu'il a tous les droits sur nos vies, chaque jour? Et que c'est beau, mes chers jeunes, que de s'abandonner dès sa jeunesse pour être pour le Seigneur Jésus. Quel privilège! Donc, voilà, définitivement maintenant dirigé par l'Esprit, tout ira bien. Tout ira bien. Déjà, n'est-ce pas, dans le verset 11. Quittant donc la Troade, nous fîmes voile, tirant droite sur Samothrace. C'est tout à fait prospère, ce voyage. Mais plus tard, dans un autre chapitre, la même direction, ils ont mis 5 jours, le même trajet. Ils étaient aussi dans la volonté du Seigneur. Donc, il ne faut pas se méfier que, puisque une fois on sait la volonté du Seigneur, tout va bien. C'est bien possible qu'il y en ait beaucoup d'obstacles dans le chemin de l'obéissance à la volonté du Seigneur Jésus. Mais voilà ici, tout à fait prospère, tirant droite à Samothrace, et le lendemain, Néapolis, et de là à Philippe. Eh bien, ils arrivent à la première ville du quartier de la Macédoine, une colonie, et nous séjournâmes quelques jours dans cette ville. C'est frappant. C'était un homme macédoine qui les a appelés. Mais où il se trouve? Il n'était pas là sur le quai pour nous dire « Vous êtes les bienvenus, frère. Venez chez moi. » Non, non. Il n'y avait personne. Mais cette vision, est-ce qu'on a mal compris la vision? Et finalement, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Lydie. Donc, 3 jours, ils se trouvaient dans cette ville sur leur propre côte encore. Il fallait donc encore chercher un petit hôtel, leurs propres frais. Mais alors, est-ce qu'ils se sont méfiés de la direction de l'esprit? Pas du tout. Je pense que leurs convictions ont encore beaucoup plus été approfondies. Donc, voilà, le jour du sabbat venu, même pas en synagogue. Non, il n'y avait même pas 10 hommes juifs dans cette ville de Philippe. Autrement, il avait donc constitué un synagogue. Mais il n'y a même pas 10 juifs. Et alors, le sabbat, c'est pour cela, parce qu'il y a des lavages, n'est-ce pas, des juifs, des traditions qui se trouvent là, à côté d'un fleuve, un endroit où on faisait la prière. Le verset 13. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes. Nous venons donc de dire que la puissance de Dieu transforme une vie et transforme aussi les préjugés que nous pouvons avoir. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'était pour l'apôtre Paul, un ancien pharisien, qui s'adresse à quelques femmes là, au bord du fleuve. On l'avait appris comme pharisien de dire, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas des païens, des nations. Je ne suis pas non plus une esclave et je ne suis pas non plus une femme. » Et voilà ici. Ces préjugés totalement transformés et tout à fait prêts à annoncer la parole de Dieu en groupe. Il y a des femmes ici au fleuve. Mais il était disponible. Il était disponible. Et le Seigneur a bien montré que c'était sa volonté tout à fait qu'il a conduit l'apôtre Paul donc au bord de ce fleuve parce que il y avait une âme préparée par le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Et le résultat, cette femme respectueuse et même pieuse et croyante, elle avait la crainte de Dieu. Mais on peut avoir la crainte de Dieu sans avoir été régénéré de l'Esprit de Dieu, sans être né de nouveau. Et nous voyons quatre choses. Elle avait donc les oreilles ouvertes pour écouter le message que l'apôtre Paul l'apporte. Et le Seigneur a ouvert son cœur. Et puis, elle a ouvert sa bouche. Elle a rendu témoignage. Si vous jugez que je suis fidèle à qui, au Seigneur, elle a tout de suite compris, dès le moment de sa conversion, que Jésus-Christ doit être Seigneur. Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, et finalement, elle a encore ouvert sa maison. L'oreille ouverte, le cœur ouvert, la bouche ouverte, et sa maison ouverte. Voilà, c'est donc la vie chrétienne pratique. Tout à fait. Dans les petites choses comme ça, être fidèle. Et alors, elle a été baptisée et sa maison. Une transformation. Deuxième transformation. Cette pauvre, dans les versets 16 à 18, une fille donc possédée par un python. C'est donc ce qu'on dit le miracle de Delphi. Possédée. La pauvre. Mais ce qui nous frappe, c'est que même les démons, ils savent très bien ce qui est Jésus. Et en effet, c'était un démon qui évangélisait ici. Vous vous rendez compte? Alors, ces hommes, verset 17, ces hommes sont des esclaves du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Alors, pour les auditeurs, ils ont dit bien, Paul et cette fille, ils nous apportent le même message. Ça, c'est dangereux. Une situation très délicate et très dangereuse. Est-ce que donc Dieu avait besoin de la bouche d'un démon pour annoncer le salut? Pas du tout. Et par la puissance de Dieu, il y a un miracle qui s'est produit. Le démon est sorti et par la fermeture de la bouche de cette fille, Dieu a parlé. Dieu n'a pas besoin d'une bouche d'une fille possédée d'un démon. Et afin que tout le monde dans cette ville sache qu'il n'y a rien d'association entre Paul, le serviteur de Dieu, et cette fille. Le démon a été donc chassé. Et ici, c'est une chose très pratique encore. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous délivrer du poids de nos péchés, du jugement de nos péchés. Mais le Seigneur peut encore délivrer aussi des puissances des ténèbres, des démons. Vous croyez que ça existe encore aujourd'hui? Mais donc, est-ce que la puissance du Seigneur, ce n'est pas suffisant pour la délivrance de quelqu'un qui est possédé? J'en suis sûr. Et on peut presque dire, on a fait l'expérience même de cela. On le sait que ça arrive encore aujourd'hui. Mais pour nous, dans nos pays christianisés, on pense qu'il n'y a pas ici des hommes possédés. On pense que ça se voit en Afrique ou dans l'Amazone, mais pas ici à Paris. Oh, je vous assure, mes chers amis, il y a beaucoup de pauvres pécheurs comme cette fille qui sont sous la puissance du diable et peut-être qui n'ont pas de connaissance du tout de l'évangile. Dans une ville de combien de millions? 8, 9, ici à Paris. Quel impact a le Seigneur à travers ses serviteurs ici à Paris? C'est toujours un défi qui me frappe. À Londres, avec des immenses besoins. Et nous nous trouvons là, un tout petit témoignage. Et nous sommes peut-être encore un peu fiers que nous marchons sur les principes du Nouveau Testament. Tout est en règle chez nous. Oh, mes chers amis, que le Seigneur mette donc sur nos cœurs tous un fardeau pour que nous avons le souci pour ceux qui sont dans les besoins, dans nos assemblées et dans nos villes. L'apôtre Paul, plein de compassion, il était affligé. Je suis sûr qu'il est affligé parce qu'il voyait cet état misérable de cette fille. Il avait pitié pour cette fille sous l'esclavage d'un démon. Et par la puissance dans le nom du Seigneur Jésus, tout puissant, il a pu chasser ce démon dehors. Et aussitôt, il a donc dû souffrir pour cela. Et dans les versets suivants, versets 19 à 24, ils ont souffert. Et plus tard, dans la prison. Mais pour l'apôtre Paul, c'était une joie que de pouvoir être une bénédiction à une fille, une pauvre. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille. Est-ce qu'on a osé souhaiter et penser qu'elle a fait part aussi de l'assemblée à Philippe? Certainement les geôliers et Lydie. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas transformer un possédé dans une croyante rayonnante? Certainement. Et finalement, nous voyons donc encore un foyer sauvé pour le Seigneur. Un homme tout à fait indifférent, cruel. C'est l'histoire de tout homme qui vient à la lumière, qui vient par la conviction à une connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Est-ce qu'il y a encore ici ce soir une personne respectueuse? Vous connaissez la Bible. Vous n'êtes pas païen, vous n'êtes pas contre, mais vous êtes misérable. Vous n'avez pas la paix. Vous regardez en arrière dans votre vie et quels dégâts, combien d'échecs, combien d'expériences douloureuses, vous êtes là, ce soir, dans ce coin. Et vous ne savez pas comment sortir de ce coin. Votre âme est triste. Est-ce qu'il y a d'espoir pour vous? Oui, cher ami, oui. Ce soir, vous pouvez sortir de votre prison. Comme aussi ce geôlier, ce n'était pas l'apôtre Paul finalement qui était le prisonnier. Il était le prisonnier du Seigneur Jésus, mais c'était le geôlier qui était le prisonnier du diable, lié, il se pensait libre. Et peut-être il y en a qui se pensent libres, mais qui sont des esclaves des péchés. Mais ils sont en effet liés par le diable. C'est un aveuglement, on ne voit pas clair son état. Mais quand la parole est annoncée, et c'est justement dans la lumière de cette parole annoncée que le geôlier voit, sa condition misérable. Et quelle grâce. Le Seigneur a utilisé un tremblement de terre. Encore aujourd'hui, le Seigneur utilise des tremblements de terre. Toute la terre a été secouée par le tremblement de terre en Turquie, en Russie. Le Seigneur parle avec des désastres par avion, des désastres par bateau. Le Seigneur parle par des désastres ici, à droite, à gauche. Ça augmente, ça augmente. Nous sommes vraiment arrivés à la fin du temps. Est-ce que nous sommes prêts? Prêts à rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous réalisons, nous, enfants de Dieu, qu'il nous reste encore très peu de temps pour pouvoir servir le Seigneur Jésus? Alors, pour racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Voilà un tremblement de terre, verset 26. Et le résultat, verset 27, et le geôlier s'est éveillé. Ah! Il était donc endormi. Maintenant, il se réveille. C'est la conviction qu'apporte l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu. Il se réveille. Et alors, il veut se tuer. C'est toujours comme ça. Le diable vous dit, maintenant vous êtes dans un coin, vous ne pouvez pas en sortir, c'est sans espoir, sans issue, il faut mieux te suicider. Et tant de gens se suicident parce qu'ils n'ont pas vu l'issue. Comme le geôlier. C'est ainsi qu'il y a des milliers qui sont poussés dans l'enfer par les diables, par le suicide. Mais l'apôtre Paul criait à haute voix, verset 28, « Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. » Cette voix résonne encore ici, dans cette salle ce soir. « Ne te fais point de mal. » Comment est-ce qu'on peut se faire mal soi-même quand on refuse l'offre de Dieu, le salut par la foi en Jésus-Christ? Quand on refuse le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur, on se fait mal éternellement. Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Et ayant donc demandé la lumière, c'est la lumière de la parole de Dieu dans un sens, qui a donc éclairé. Et le geôlier tout tremblant, c'est lui qui tremble maintenant. Cet homme, si fier, si orgueilleux, si cruel, il tremble par la conviction qu'il était face à face avec la mort. Et il se jeta aux pieds de Paul et Silas et il pousse cette cri, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Encore là, l'homme pense toujours qu'il doit faire quelque chose. Même dans son état de désespoir, il pense quand même qu'il peut encore faire quelque chose. Est-ce que nous sommes déjà arrivés là où on en réalise qu'on ne peut rien faire? Non. Tu dois seulement croire en Jésus-Christ. Tout a été fait pour toi, pour moi, sur la croix du calvaire. Recevoir Jésus-Christ, c'est quand même un mouvement de cœur, c'est s'abandonner, c'est se donner, c'est se courber sa tête devant le Seigneur, c'est se confesser sa condition pitoyable, confesser ses péchés et de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et comme Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tellement simple et c'est tellement personnel et c'est aussi immédiat. Tu seras sauvé et c'est universel aussi, toi et ta maison. J'en suis sûr, moi personnellement, que quand le Seigneur sauve une âme dans un foyer, si un des parents c'est un croyant, que le Seigneur veut aussi que le reste de la famille soit sauvé. Dans sa sagesse, on peut voir cela à travers la parole de Dieu. Et alors la transformation. Cet homme qui était si contre, totalement transformé, parce qu'il a annoncé la parole du Seigneur, verset 32, mieux expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé, et aussi expliquer qu'une fois qu'on reçoit le Seigneur comme son sauveur, on s'identifie avec lui dans le baptême. On accepte qu'on est donc uni avec un Christ rejeté par le monde. On accepte l'opprobre du Seigneur Jésus. Et puis, baptisé avec toute sa maison, il fait remonter les apôtres et il ouvre son cœur et sa maison. Et finalement, peut-être on avait pensé que l'apôtre Paul n'a pas eu raison, qu'il n'a pas accepté de tranquillement sortir du ville sans faire beaucoup d'histoires. Est-ce qu'il a vraiment eu le droit d'insister sur ses droits? Mais j'estime qu'ici, l'apôtre Paul n'a pas insisté sur ses propres droits, en premier lieu, en tout cas. Il a pensé donc à cette petite assemblée qui sera donc établi, formé à Philippe. Si l'apôtre Paul avec Silas sont sortis comme ça, ils ont donc laissé une question, une grande question sur cette petite assemblée en rapport avec tous les gens de Philippe. Les gens de Philippe, la dernière chose qu'ils ont vue de l'apôtre Paul et de Silas, ils étaient des criminels qui ont reçu leur punition. J'étais en prison, des criminels, ils ont dû. C'est tout ce qu'ils savaient. Non, l'apôtre Paul avait dit, si l'assemblée va continuer à Philippe, il faut que tout le monde à Philippe sache que ce sont des hommes honorables et que c'est C'est donc les autorités qui ont eu tort. Et dans ce sens-là, je vois que l'apôtre Paul a eu tout à fait droit d'insister que ses prêteurs et les autres lecteurs viennent les accompagner pour quitter la ville. Mais ce n'est pas cela qui m'occupe. C'est encore le fait que, à la fin du verset 34, nous voyons, il se réjouit avec toute sa maison. Déjà cet après-midi, on avait vu qu'il y avait de la joie de l'Esprit Saint. Et il y avait de la joie dans cette maison. Et même l'apôtre Paul, au lieu d'être consolé par ses frères, par les souffrances de toute la nuit, c'est lui et Silas qui réconfortent les frères et sœurs. Jamais une pensée pour lui-même. Quel esprit qui a caractérisé le Seigneur Jésus-Christ, toujours penser aux autres. Et quel esprit de disponibilité que le Seigneur nous aide à nous tous d'être disponibles pour lui.